Alors ce matin, on va partager une parole qui ne sera pas très longue. Dans Jacques chapitre 4, à propos des motivations quand nous demandons des choses à Dieu. Il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de principes scripturaires qui sont fondamentaux à réaliser, à pratiquer dans nos vies spirituelles. Vous savez, concernant la prière et demander la foi, etc. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne, ce que c'est que la prière de la foi. Je peux vous faire des cours sur la foi. Je peux vous expliquer le rôle de la parole de Dieu. Je peux vous expliquer tout ça. Et bon nombre d'entre vous déjà, vous êtes bien enseignés sur ce domaine-là. Mais vous devez aussi comprendre une chose. C'est que rien ne pourra passer au niveau de la prière à côté du développement de votre relation avec Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Vous ne pouvez pas passer à côté de votre relation avec Dieu et seulement utiliser des principes de la foi, de la prière de la foi. Ça va obligatoirement ensemble. Il faut développer sa relation avec Dieu en même temps que développer sa connaissance de la parole. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas dire j'applique les principes de la foi, j'applique les principes de la parole de Dieu et puis finalement je m'occupe pas de ma relation avec Dieu. Ça ne peut pas aller ensemble. Jacques chapitre 4 va nous enseigner quelque chose. Et c'est un principe que je veux que vous pratiquiez régulièrement. Ça va être de sonder vos motivations alors que vous demandez quelque chose au Seigneur. C'est absolument fondamental. Quand nous sondons nos motivations et que nos motivations sont pures, alors, si nous connaissons les principes de la parole, c'est là où nous pourrons voir les plus grands résultats dans ce que nous demandons. Verset 1, il dit dans Jacques, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? Alors c'est parmi vous, il y avait marqué, mais c'est en vous, littéralement, sinon de vos passions qui font la guerre à vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de dépenser, d'utiliser ça, pour satisfaire vos passions, vos convoitises. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie ou fait chérir l'esprit qui habite en vous, mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux mais donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez le deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élève. Verra. Alors, on peut lire à partir du verset 3, s'il te plaît.
Reka nsome kuva ku murongo wa gatatu ngo murasaba nimuhabwe kuko musaba nabi kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. Yemwe basambanye nimuzi yuko gucudika n'isi ari kwankana n'Imana. Nuko umuntu wese agomba kuba incuti y'isi abayigize umwansi w'Imana. Chake mwiyumvira yuko ivyanditswe bivugira ubusa ngo umpemu yagererewe muri twebwe atwikundiriza fuha ariko itanga ubuntu burushirije. Nico gituma ivuga itimana igwanya bibona ariko abicisha bugufi ibaho ubuntu nuko mugamburukira imana ariko mugwanya wa mugwanizi na wazobahunga mwegereza imana na izobegera yemwe banyavyaha nimukarabe.
Alors, c'est important de comprendre un principe ici qu'on va voir ensemble. C'est surtout ce verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos passions. Vous savez, vouloir voir intervenir Dieu dans nos vies, c'est quelque chose de fondamental, nous le savons. Et nous le savons que ça se fait au travers de la prière. Demander des choses à Dieu, c'est quelque chose qui est normal pour un chrétien, et il le faut d'ailleurs. demander à Dieu des choses qu'on veut voir s'accomplir dans nos vies.
Hein.
Ce sont des choses qui sont normales de la vie chrétienne normale.
Hein.
Et ce que nous voulons voir, c'est bien sûr Dieu exaucer nos prières. C'est-à-dire de voir le résultat désiré. Si je demande un certain nombre de choses à Dieu, je veux voir ces choses se réaliser dans ma vie. Alors souvent j'aborde cet aspect en vous parlant de la foi, en vous parlant des résultats qu'on doit obtenir, en vous parlant de la façon de faire, comment prier une seule fois, la prière de la foi, etc. Et tout ça, ça rentre bien sûr dans ce cadre ici, parce que ça c'est demander quelque chose. Mais ici Jacques montre qu'il y a un obstacle que certains chrétiens vivent. Vous savez, Jacques a écrit son épître assez tôt, d'ailleurs, c'est une des premières épîtres qui a été écrite. Et il dénonce un certain nombre d'abus qu'il y avait dans l'église de Jérusalem. Parce qu'il avait vu des gens vraiment être là dans l'église. Et puis, il trouvait qu'il y avait une certaine hypocrisie chez certaines de ces personnes. D'autres plaçaient mal leur foi, d'autres disaient qu'ils étaient sauvés, puis finalement ils ne montraient pas les fruits du salut dans
etc.
etc. Et là il va dénoncer quelque chose qu'il a vu au niveau de la prière, où des gens en fait se servaient de la prière en vue de satisfaire des convoitises. Je vais vous montrer une femme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Anne, c'est dans
1
Samuel. On va étudier ce qu'elle a fait, cette femme, et comment elle a vu son exaucement et comment elle a changé d'attitude par rapport à sa requête devant Dieu. Bien sûr, là nous étudions une prière sous l'Ancien Testament, donc il faut être tout à fait prudent sur la façon dont nous étudions cette prière. Il n'avait pas la même alliance que nous. Il n'avait pas les mêmes privilèges que vous et moi nous avons dans la prière. Il n'avait pas cet accès ouvert auprès de Dieu. Il n'avait pas le nom de Jésus. Il n'était pas né de nouveau. Donc il est évident qu'elle utilise un langage dans cette prière qui en grande partie ne doit pas être notre langage. Parce que nous avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'attitude de Anne, comme nous allons voir, a été déterminante pour voir Dieu agir. Et de cette prière, nous pouvons utiliser des images pour nous, des leçons spirituelles montre ce que nous devons faire, quelle attitude nous devons adopter. Et cela correspond tout à fait à ce que Jacques disait dans son épître au chapitre 4. Au verset 1, il est dit, chapitre 1, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, c'était une montagne en Israël, dans une région d'Israël, nommé Elkanah, fils de Yéroam, fils d'Eliou, fils de Tou, etc. Il avait deux femmes. Alors ça, c'était le problème de l'Ancien Testament. Vous trouverez parfois des textes qui peuvent pour nous être choquants, d'un certain nombre de personnages bibliques qui étaient polygames, mais on voit clairement les fruits pourris et horribles que ça faisait dans les familles. Je
vous
rappelle que la polygamie n'a jamais été la volonté de Dieu pour l'homme, que ça a créé énormément de problèmes dans le peuple d'Israël, parce qu'un certain nombre d'entre eux, entre autres des rois, se permettaient pas mal de choses. Et quand vous étudiez la vie de David avec sa famille, c'était pas joyeux. Et Salomon a amené la malédiction sur le territoire d'Israël. Et là ici, la polygamie va va créer un problème dans cette famille. Apparemment, il y avait une certaine permissivité de Dieu à l'époque. Mais nous, en Christ, la Bible est très claire sur ce sujet. Il avait deux femmes. Le nom d'une était Anne et la deuxième était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana, donc le mari, offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles, mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'est ce que nous avons dans nos versions. Littéralement, c'est ce qu'on appelle un temps en hébreu qui est le temps permissif.
Abavuga ngo uhoraho yari yaramuzivinda ntabwo ari uhoraho nyene yabikoze ariko ni ibyo bitamugiye burayo umwanya wo kwemererwa canke no kuvuga ngo Imana yaremeye ko azibinda.
Et en fait Dieu ne rend pas malade.
Mwende majambo Imana nishobora kugwaza.
Nulle part vous verrez cela dans la parole de Dieu, ce n'est pas scripturaire. Et la meilleure traduction ici c'est que Dieu avait permis à cause de la chute.
Uvuga neza uti Imana yari yemeye kubera kugwa.
La stérilité est venue avec la chute d'Adam et Ève.
Ubugumba bwaje kubera kugwa kwa Adam na Eve.
Sinon, il n'y aurait pas vraiment de sens à ce texte, parce que Dieu permettrait que quelqu'un soit stérile, et après, c'est Dieu qui intervient pour enlever la stérilité. Donc, ça voudrait dire que Dieu a changé sa façon de penser. Un jour, il rend stérile, et le lendemain, il guérit.
Avuze gutya ngo ihoraho yaramuzivinda byose gura yuko Imana ishobora kuziba inda umuntu hamabuke ikazi kamukiza bisigura ko bitokumvikana neza muri ico gihe.
Verset 6, regardez bien. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Encore là, temps permissif. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? On peut lire à partir du verset 6.
Reka nsome kuva ku murongo wa gatandatu ngo kandi mukeba we yama amushinyagurira akamutera intuntu kuko uhoraho yamuzivyinda yatumye inda yiwiziba yemeye ko inda yiwiziba uko niko vyagenda uko umwaka utashe uko Hana yadugaje mu ngoro y'uhoraho niko mukeba we yamushinyagurira nico catumarira akanka kujya maze umugabo wa Elkana akamubaza aturizwa n'iki gahana niki kikubuza kujya ubabajwe n'iki mbega singurutira abahungu 10 wo vyaye.
Et en fait, ici, le verset 6 commence à nous montrer ce que parfois de mauvaises circonstances peuvent faire contre nous. Là, il est parlé de sa rivale, l'autre femme, donc Pénina. Elle lui jetait des poignards dans le cœur. Elle essayait de la provoquer pour qu'elle se révolte. Qu'elle se révolte contre son mari et surtout contre Dieu. Et là pour nous c'est une image. Des Pénina, nous pouvons en avoir beaucoup dans notre vie. C'est-à-dire comme par hasard des gens que le diable utilise pour aller toucher certaines blessures ou certains trucs qui nous font mal. Cette femme était meurtrie quelque part. Elle était humiliée dans une condition d'humiliation. Et vous savez, quand on est dans une condition d'humiliation, si nous ne réagissons pas correctement, si nous ne réagissons pas correctement, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe la chose suivante. Si nous réagissons mal, nous ouvrons une porte au diable pour travailler dans notre vie. La frustration, quand elle perdure et quand nous la nourrissons, amène de l'amertume envers la vie et souvent vers le Seigneur, Catherine Kuhlmann a dit quelque chose un jour. Elle a dit: l'important c'est pas ce qui se passe, les événements que vous vivez, l'important c'est ce que vous allez faire pour réagir par rapport à ces événements. Et ça c'est absolument fondamental.
Et ça c'est absolument fondamental.
y a des situations parfois dans lesquelles où nous passons où c'est humiliant. Cette femme était humiliée. Et parfois nous sommes dans des positions inconfortables. De par, je dirais, ben, certaines circonstances qui sont mauvaises. Et sur notre route, nous avons des gens qui sont des péninas, qui mettent bien l'accent sur la chose. Et je vais vous dire quelque chose d'important. Il faut que vous appreniez à réagir positivement selon la parole de Dieu, parce que vous avez un secours. C'est la prière. Vous avez une puissance à votre disposition. C'est la prière. Au début, Anne, elle a été extrêmement humiliée. Tous les ans, Pénina était là. La femme qui avait largement enfanté, qui avait produit, et elle faisait largement comprendre à Anne que Anne était une pauvre imbécile. Et régulièrement, ça se produisait. Et je vous dis, ça crée souvent l'amertume. Quand on est amer, le diable nous écarte du Seigneur. Ça, c'est sa méthode. C'est la méthode qu'il utilise. Et au début, Anne va s'adresser à Dieu d'une mauvaise façon. Regardez au verset 9. Il est dit, Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et pleura beaucoup.
Ngo maze barangije kujya no kunwa aho bari bari ishiro hanava hasi. Kandi yari umuherezi yari yicaye ku ntebe yiwe ku gishema ryango mu rusengero rw'Uhoraho maze hana senga Uhoraho afise intuntu arira cyane.
Et là, elle n'était pas dans une bonne position. Dans le ciel, il
n'y
a pas un bureau où il y a marqué bureau des plaintes. D'accord ? Bureau des plaintes, ça n'existe pas. Quand vous venez vers le Seigneur, ne venez pas pour vous plaindre. Oh Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait. Oh Seigneur, tu vois ce qu'elle m'a dit. Oh Seigneur, tu vois, ça n'arrive qu'à moi. Oh Seigneur, ceci. Oh, tu vois, Seigneur, cela. Oh, tu vois, Seigneur, cela. Je vous dire une chose. Si vous faites ça, vous n'êtes pas prêt de voir Dieu agir dans votre situation. Dieu ne reçoit pas les plaintes. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens passent leur temps à se plaindre de tous les problèmes qu'ils ont. Constamment, ils prient la prière de plainte. Vous savez, c'est ce qui a tué Israël. Israël avait tout pour réussir. Ils se sont plaints à Dieu, ils se sont plaints à Moïse, ils se sont plaints tout le temps. Et au début, c'est ce que Anne a fait. Oui, Seigneur, tu vois, j'ai plus de 30 ans et je suis toujours pas marié. Oui, tu vois, Seigneur, on est marié depuis 5 ans et on n'a toujours pas d'enfant. Oui, Seigneur, je te prie depuis toutes ces années et je ne vois pas ma prospérité. Plus vous vous plaignez, plus vous nourrissez de l'amertume dans votre cœur. Et moins vous verrez Dieu agir.
Vous pouvez lui demander,
vous pouvez connaître les principes de la prière de la foi. Vous pouvez proclamer votre bénédiction. Je vous dis une chose, ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que vous avez un motif qui n'est pas bon. Finalement, quand nous demandons des choses à Dieu, quelle est notre raison derrière tout cela ? Quelle est en fait la vraie raison pour laquelle on veut voir Dieu intervenir.
Ça,
c'est une question qu'on doit se poser. Par exemple, si ta conjointe ou ton conjoint n'est pas sauvé, pourquoi est-ce que tu veux qu'il vienne au Seigneur? Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que c'est parce que tu veux la paix à la maison? Parce que tu en as marre de ces blagues? Parce que tu aimerais avoir quelqu'un avec qui tu peux vraiment dialoguer? Bon, tout ça, ça peut être de bonnes raisons. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois demander à ce que ton conjoint ou ta conjointe soit sauvé. La bonne raison, c'est pour qu'il n'aille pas en enfer. Ça, c'est la bonne raison. Et ça doit être la raison qui te motive à prier. Si tu demandes à ce que quelqu'un vienne au Seigneur, la raison, c'est pas pour avoir la paix. La raison, c'est pour que cette personne n'aille pas passer son éternité en enfer. Et ça, c'est important.
Il
y a des gens comme ça qui prient.
Alors,
Seigneur, sauve-la. Seigneur, sauve-le.
Oh,
parce que j'en ai marre. C'est pas une raison. Ça, ce n'est pas une raison. La bonne raison scripturaire divine, c'est que tu ressens la compassion dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, tu vois où elle est en train d'aller. Tu vois où il est en train d'aller. Seigneur, moi je veux le voir sauvé. Parce que je veux qu'il soit arraché de l'enfer. Je veux pas un jour aller l'enterrer. Sachant qu'il est parti en enfer. Seigneur, ce serait un drame. Et à ce moment-là, quand tu réalises, là tu as la bonne raison pour prospérer. Pourquoi est-ce que tu veux prospérer? Pour montrer que tu es riche? Vraiment, pose-toi cette question. Que tu es bien dans la vie? Que tu peux te présenter devant les autres la tête haute? Ça, ça ne doit pas être ta raison. La raison numéro un pour laquelle tu devrais vouloir prospérer, c'est parce que tu veux financer le royaume de Dieu. Tu veux t'occuper des affaires du Seigneur. Le reste, tu l'auras, bien sûr. Le reste, ça sera des conséquences. Mais ne mettons pas, comme on dit en français, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, ce qui va tirer, ça doit être avant ce qui est tiré. Et bien des fois, nous n'avons pas la bonne raison, la bonne motivation. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal déjà. Parce que vous voulez satisfaire vos convoitises. Vous n'avez pas la bonne raison pour demander. Vous n'avez pas la bonne motivation. Alors que Dieu veut que vous ayez la bonne motivation. Et au début, Anne, c'était ça. Elle était là, elle souffrait. Et franchement, elle avait de quoi souffrir. Être dans une position d'humiliation pendant des années, ça fait mal. Surtout si on réagit mal. Ça fait mal si on réagit mal. Parce qu'on est blessé. Je vous dis, le diable place toujours des gens pour nous enfoncer un peu plus. Parce qu'il sait qu'on est touchable ici, attaquable ici. Et alors là, on est vraiment meurtri, blessé. Et on n'est pas dans une bonne position. Et verset 11, elle va se reprendre. Elle fit un vœu et dit: Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, je vous rappelle qu'on est dans l'Ancien Testament, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je te le donnerai pour tous les jours de sa vie. Qu'est-ce que Anne fait ici? Elle arrête ses histoires de plainte. Et elle a trouvé la vraie motivation qui touche le cœur de Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, tu sais, Seigneur, j'aurais vraiment aimé avoir un fils. Et l'élever, et le prendre par la main, et tous les ans, à côté de mon mari, venir à Jérusalem pour t'adorer. J'aurais relevé ma tête. Je serais fier. Mon fils. Mais elle n'a pas prié comme ça. Elle dit, Seigneur, si tu me le donnes, si tu me donnes un fils, il sera pour toi. Il sera consacré. Ça veut dire qu'il ira servir dans le temple.
Et
elle savait qu'elle ne le verrait pas beaucoup. Et si vous lisez la suite de l'histoire, c'est ce que vous verrez. Elle amenait le petit Samuel régulièrement. Pendant toute l'année, après, il passait du temps dans le temple avec le sacrificateur Élie pour être formé. Et elle le voyait que quelques semaines par an. Mais elle l'a consacré. Seigneur, si tu me donnes ça, alors c'est pour toi. Alors c'est pour toi. Ça c'est une bonne motivation. Ça c'est de la vraie motivation. Si tu demandes une femme, si tu demandes un mari, dis-lui, dis au Seigneur, Seigneur c'est pour toi. Seigneur il est pour toi, il ne passera jamais avant toi. Le problème de beaucoup de gens, c'est que quand ils ont une bénédiction, ils la font passer après avant le Seigneur. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux et c'est un obstacle à certaines prières. Il y a des gens qui sont comme ça. J'ai vu des gens changer leur bénédiction en malédiction. J'ai vu des gens comme ça. Ils ont changé ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. C'est devenu une malédiction pour eux. Parce qu'ils en ont fait une idole. Une idole, qu'est-ce que c'est? C'est laisser passer quelque chose ou quelqu'un avant Dieu. C'est dire, oh, Seigneur, cette chose-là ou cette personne-là passe avant toi. Passe avant toi. Ça, c'est avoir une idole dans son cœur. Et c'est l'amour du monde dont Jacques parle. C'est adultère selon le Nouveau Testament. C'est laisser passer quelque chose avant Dieu dans ta vie. Il y a des gens, ils font des fixations. Ils ont un problème sérieux. Ils sont humiliés. Ils crient devant Dieu. Ils pleurent devant Dieu.
Ils font
toutes sortes de choses devant Dieu. Et ça prend toute l'importance.
Et
ils osent dire à Dieu, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, j'irai plus à l'église. Non, Seigneur. Je te prierai plus comme avant. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par nos menaces. Jamais. Ça, ce sont des menaces de bébés spirituels. Seigneur, s'il n'y a pas ça dans ma vie qui se passe, alors non, je prends la marche. Je prends la distance. Ça, ce sont les bébés. Les bébés spirituels, qui ne soient pas ainsi parmi nous, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il doit rester et être le numéro 1. Pas numéro 2, pas numéro
3.
Sinon, ça s'appelle une idole.
Tout ce qui passe devant
Dieu
dans
notre vie, c'est une idole. Et Dieu n'aime pas du tout cela. La Bible nous dit dans Jacques qu'il chérit l'esprit qu'il y a en nous. Il est jaloux de cet esprit qu'il y a en nous. Il ne veut pas que tu fasses passer des choses avant. Qu'il y ait des idoles dans ton cœur. Qui prennent de la place, de Dieu. Mais ce qu'il veut, c'est qu'en toute chose, il reste le premier. Il y a trop de gens qui sont comme ça. Trop de gens qui prient avec une mauvaise motivation. Qui font d'une idole quelque chose, quelqu'un.
Oui, je ne
pourrais jamais te servir, Seigneur, si je ne suis pas marié, par exemple. Il y a des gens qui disent
ça. Oui,
Seigneur, si je n'ai pas ce boulot-là, alors là, non, je ne
vais pas le faire.
Il y a plein de gens qui font des menaces.
Non, si tu
demandes quelque chose à
Dieu,
si tu demandes quelque chose
à Dieu,
vraiment, c'est ta motivation.
Reste
toujours le Seigneur.
Numéro
1.
Numéro
1,
il
doit rester numéro
1.
C'est pour ça
que
parfois Dieu n'exauce pas certaines
demandes.
Moi j'ai remarqué une chose,
ça
m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie spirituelle. Je voulais absolument quelque chose de Dieu. Et puis au bout d'un moment, le Seigneur a commencé à sonder mes motivations. Et je sentais que c'était l'obstacle. Et j'ai dit, Seigneur,
okay.
De toute façon, même si tu ne me le donnais pas, je te servirai. Je ne le veux pas avec ces motivations. Et au moment où j'ai dit ces choses, c'est là où Dieu me l'a donné. Parce que je n'en faisais pas une idole. Parce que ça ne passait plus en premier. Parce que je n'en faisais plus une fixation. Il y a trop de gens qui font des fixations sur des choses ou sur des personnes. Et quand tu fais ça, Dieu ne peut pas te le donner, c'est dangereux pour toi. C'est une occasion de chute. Est-ce qu'un papa ou une maman pourrait donner un outil dangereux à un enfant? Ça serait du suicide. Si tu donnes quelque chose de coupant à un petit enfant, il va se faire mal. C'est la même chose pour nous. Si nous n'avons pas les bonnes motivations, Dieu des fois ne nous donne pas la chose. Et si vous êtes vraiment dans la foi, mais que la motivation n'est pas juste, c'est un obstacle. Donc ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est dire, Seigneur, pardon, ça passait avant toi. Vous savez, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Avec Dieu, il faut être sincère et honnête. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Je ne peux pas tromper Dieu. Je
ne
peux pas lui faire croire que j'ai telle motivation. Avec un homme, tu peux faire ça. Tu peux simplement dire à quelqu'un, non, tu vois, je veux ça pour telle raison. Et la personne te croit ou ne te croit pas sur tes paroles. Mais vous savez, Dieu, c'est pas comme ça. Psaume 139.
Hein.
On va finir par ça. Il est dit au verset 1, psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, c'est-à-dire si je fuis, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Mais les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits. Les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Donc rien n'échappe à Dieu. Il sait ce que tu penses.
Il
sait ce que je pense.
Il
connaît ton cœur.
Il
connaît mon cœur. Alors avant d'élever la voix vers le Seigneur, réfléchissons à nos motivations. Pourquoi est-ce que tu veux telle ou telle chose finalement? Est-ce que tu as une motivation qui est pure et sainte derrière? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le le cas, alors il faut te repentir. Tu dis, Seigneur, pardon. Seigneur, si je veux ça, je veux que ce soit pour ta gloire. Je veux te le consacrer. Vous savez, Anne a consacré son enfant au Seigneur. Le petit Samuel. Mais après, Anne, elle a eu d'autres enfants. Quand vous êtes exaucé par Dieu, parce que vous avez les bonnes motivations, il y a toujours des retombées de cette bénédiction. Toujours des effets de cette bénédiction. Par contre, il faut avoir au départ la vraie motivation. Si tu as la vraie et la bonne motivation, que tu reçois ta bénédiction, obligatoirement, ça va déborder sur quelque chose dans ta vie
encore.
Ce sera les conséquences de ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Donc c'est très important. Quand nous demandons des choses, demandons-les correctement, avec la bonne motivation, pour les recevoir. À ce moment-là, nous recevons parce que c'est consacré à Dieu. C'est consacré au Seigneur. Seigneur, quoi qu'il se passe dans ma vie, je te le consacre. Je n'en ferai pas une idole. Ça, c'est un cœur qui progresse avec Dieu. Les cœurs qui ne progressent pas avec Dieu. Et j'en ai vu, frères et sœurs. J'en ai vu. Ce sont des gens qui demandent des choses, qui sont dans des situations difficiles, extrêmement difficiles. Et il suffit qu'ils commencent à être bénis. Et ils s'écartent de Dieu. Quelle tristesse. C'est misérable. C'est absolument misérable. Et faites attention aux pressions. Faites attention aux pressions. Plus nous avons une fixation sur quelque chose qu'on veut obtenir de Dieu, avec une mauvaise motivation, plus les pressions sont fortes sur nous. Quand les pressions sont fortes, c'est là où nous sommes tentés à tomber dans le péché. Ah, ça, c'est la porte ouverte. Si tu es sur le terrain du diable, le péché se couche à ta porte. Si tu fais une fixation sur quelque chose avec un mauvais motif derrière, tu ne le verras pas s'accomplir. Tu es sous pression. Le diable t'envoie ses petits émissaires, les petites phrases qui font mal, les actions qui font mal, les paroles qui font mal. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu craques. Tu vas dans le péché. C'est des gens qui se marient avec une inconvertie ou un inconverti. C'est des gens qui trafiquent pour avoir des boulots. C'est des gens qui font toutes sortes de choses parce qu'ils se mettent dans le péché, parce qu'il y a des pressions sur eux, parce que ce ne sont pas des gens de conviction. Être quelqu'un de conviction. Cette même femme, Catherine Kuhlmann, a dit une chose importante. Une des clés du succès, c'est la loyauté envers Dieu. Être loyal envers Dieu, c'est être fidèle envers lui. Toujours lui dire, Seigneur, ce que tu veux faire, je fais. Je ne veux pas m'en écarter, quel qu'en soit le prix. Et ça, ça demande d'être sous des pressions qui sont énormes. Mais si
tu n'es
pas capable de résister aux pressions, tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu resteras un bébé spirituel. Tu tomberas dans le péché. Tu marcheras dans le compromis. Et tu essaieras de faire du chantage à Dieu. Père Céleste, merci pour cette parole. Je te prie vraiment pour que tu sondes les cœurs et les motivations de chacun d'entre nous. Père, je prie pour ceux qui ont ce problème, qui demandent pour essayer de satisfaire leur convoitise. Je prie pour que tu touches leur cœur et que tu les amènes vraiment à changer leur motivation afin qu'ils te prient, qu'ils te demandent selon vraiment ton cœur, afin qu'il n'y ait pas d'idole dans leur cœur, que rien ne passe avant toi, mais que tu passes en premier, Seigneur, en toute chose, quelles que soient les pressions, quelles que soient les pressions. Père, je prie pour que ton peuple soit loyal envers toi, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.